Je suis en compagnie de Philippe Bordas, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de Chants furieux chez Gallimard. Je voudrais commencer, Philippe Bordas, par la figure de Wakami, parce que c'est par lui que peut s'écrire ce livre et tout ce qui lui est narré. Ce Chant furieux existe par la figure de Wakami, c'est à lui que c'est destiné.
Oui, le livre est dédié à un personnage réel. Qui est un ami qui depuis toujours en plus de ma femme est la seule personne à relire mes textes, mais qui est aveugle, qui est devenu aveugle un peu après l'âge de 30 ans, après une crise de méningite foudroyante, qui était un très grand prof de français et qui, avant de tomber en cécité, ce qui a pris plusieurs mois et qui l'a senti venir, a décidé d'apprendre tout le corpus de la poésie française dans un effort désespéré jusqu'au dernier jour où les infirmières antillaises, parce qu'il est antillais, lui apportaient les poésies qu'elle recopiait ligne à ligne et puis ensuite vers à vers, mot à mot et syllabe à syllabe jusqu'à ce qu'il ne voit plus du tout. Donc ce personnage est devenu aveugle en 1994. Et un jour, par hasard, il apprend que dans une ancienne vie, moi, en tant que photographe et écrivain, on m'a demandé de suivre Zidane pendant 100 jours, ce que j'ai complètement mis dans un côté de ma tête parce que à l'époque, il fallait faire un livre géant. On m'avait commandé ça, un énorme livre sur Zidane avant la Coupe du Monde, de rester avec lui pendant 100 jours. Puis finalement, après son coup de tête, tout ça a été avorté et j'ai oublié ça. Et en citant le nom de Zidane devant cet ami aveugle, J'ai senti qu'il vibrait, qu'il devenait complètement fou. Et il m'avoue à ce moment-là que lui est complètement fou, amoureux de Zidane. Bon, un discours assez classique, mais qui est bien plus dramatique en son cas, parce que le jour où il est devenu vraiment aveugle, le soir même où la cécité l'a pris, il s'est retrouvé seul dans l'hôpital et les infirmières antillaises ont cru bien faire en poussant la télévision dans sa chambre. Sauf que pour la première fois de sa vie, la télévision, il ne la voyait pas, mais il l'entendait. Et ce soir-là, la chose la plus commune qu'on pouvait entendre, c'était un match de foot de l'équipe de France qui essayait de sauver une place. Et ce jour-là, il y a un jeune garçon qui apparaît pour la première fois et qui marque 2 buts en 2 minutes, qui est Zidane. Alors, ce n'est pas la prestation sportive qui a impressionné cette personne qui venait de devenir aveugle et qui s'était engorgé de toute la poésie française, parce qu'il connaît par cœur Baudelaire, Mallarmé. Enfin, c'est stupéfiant. Pour moi, c'est une sorte de justicier littéraire, parce qu'il sait tout, il peut m'en remontrer sur tout. Et ce jour-là, en fait, la grande chose s'est passée à la fin du match, parce que Zidane avait fait un exploit, mais c'est surtout qu'à la fin du match, avec sa voix d'innocence, qu'on lui connaît, assez timide, assez hésitant, il est venu dire que c'était une sorte de miracle, et que ces 2 buts marqués étaient quelque chose qui lui paraissait impossible et incroyable, parce que lui venait des cités, et que ça, c'était quelque chose d'interdit. Mais du coup, pour mon avis aveugle, l'arrivée de cette voix, dans sa douleur, a été comme l'arrivée d'un ange. Et Zidane, qui n'avait jamais vu de visage, n'est jamais vu jouer, est devenu une sorte d'intercesseur entre ce monde du jour et de la nuit, et la voix de quelqu'un qui descendait vers lui, et qui, en pleine nuit, lui adressait un message d'espoir. Et donc, pendant 15 ans de sa vie, il a suivi, comme il pouvait, les exploits de Zidane, sans jamais voir son visage qu'on disait très beau, ni ses yeux qu'on disait très beau, et ni sa gestuelle de danseur qu'on disait extraordinaire. Et le seul jour où il entend le nom de Zidane de ma bouche, il me dit, si t'es vraiment un écrivain, tu vas écrire cette histoire et tu vas me faire voir Zidane. Et faire voir Zidane, quand Zidane est une image iconique, diffusée à des milliards d'exemplaires, que tous les êtres humains dans le monde ont vu Zidane, son visage et son jeu, et que vous devez essayer simplement de faire rentrer une vignette dans l'esprit d'un aveugle, qui n'est pas un aveugle comme les autres, puisque c'est un aveugle qui est doté d'un jugement poétique surpuissant. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que toutes les phrases qu'on peut dire sur Zidane, qui vont peut-être être ressemblantes à celles des journalistes de la télé, sont totalement inutiles, et que pour faire naître une image poétique et une image réelle dans le cerveau d'un aveugle, eh bien, il va falloir opérer une formulation qui soit au-delà de la formulation banale, et cette formulation qui fait naître des images, eh bien, évidemment, c'est le procès naturel de la poésie et de la littérature, c'est comment les mots peuvent produire de la vision. Et donc, d'un seul coup, ce personnage réel et prosaïque, qui est un Antillais ultra musclé, qui vit chez lui en s'entraînant, qui a le corps de Carl Lewis, qui connaît toute la littérature française, est là et attend que je vienne lui faire le récit de cette aventure de ces 100 jours passés avec Zidane. Sauf que toute phrase émise par moi va être jugée par ce personnage. Et si la phrase n'est pas bien dite et qu'elle ne fait pas image dans sa tête, elle sera invalide littérairement.
Ce qu'il faudrait ajouter, Philippe Bordas, c'est que vous exécrez le football, que vous êtes photographe, reconnu pour notamment ce livre, L'Africa Point Nu, sorti en 2004, qui vous a valu le prix Nadar, donc photographe reconnu, que le sport pour vous, c'est avant tout le cyclisme, ou dans L'Afrique à Point Nu, la lutte, mais que le football, et vous le dites dans Champ Furieux, ne vous a jamais intéressé.
Non, il m'a d'autant moins intéressé que quand j'étais jeune, je vivais dans les cités et que c'était le sport obligé. Et bon, en fait, on est aussi conditionné en ses amours par ses capacités. On ne peut pas avoir accès à toutes les femmes et on ne peut pas avoir accès à tous les sports. Moi, j'étais mieux taillé pour le cyclisme. Et voilà, et en plus, j'ai jamais aimé les mouvements de masse et l'esprit de masse, et ça m'a toujours effrayé, le foot. Alors de temps en temps, il y a des choses extraordinaires. Alors je dis ça alors que toute mon enfance a été passée à user les crampons autour des immeubles. Hein, mais après, dans l'âge adulte, j'ai accordé aucune importance. Et quand j'avais 25 ans, j'ai voulu rentrer à l'équipe parce que tous les meilleurs écrivains étaient passés par là. Mais les deux sports nobles sur lesquels on avait le plein pouvoir littéraire, c'était la boxe et le cyclisme. Le football était totalement minoré et n'existait pas. Et en plus, sur le football, qui est le sport le plus démocratique, il y a toujours eu les textes, les articles, les éditoriaux les plus faibles. C'est-à-dire que c'était le sport le moins héroïque pour moi. Et ce manque d'héroïsme était prouvé par la faiblesse de l'écrit qui s'y appliquait. Alors que sur le cyclisme et sur la boxe, entre Norman Mailer, Blondin, Paul Morand, tous les plus grands ont écrit sur la boxe et le cyclisme. Et de fait, il n'y a quasiment eu aucune ligne vraiment poétique écrite sur le football. Et donc on se retrouve face à un domaine totalement vierge. C'est très étrange.
Alors dans Champ Furieux, Philippe Bordas, on assiste à une épopée, à votre épopée avec Zidane, votre rencontre avec Zidane, votre travail de photographe auprès de Zidane, entrecroisé par des souvenirs d'enfance. Et le narrateur, c'est vous, mais il se fait appeler Memo, Memos, cette personne vous qui pourrait signifier Memo ou moi-même, soi-même. Ce nom d'abord, il signifie quoi exactement, précisément pour vous?
Bon, en fait, ce livre est le premier tome d'une trilogie picaresque, qui est donc une somme de trois livres qui va être mon histoire, mais c'est surtout l'histoire d'effondrement de la langue française, dont je suis, je pense, un bon exemple, puisque je suis né dans un endroit où la langue française n'avait pas cours, et que j'ai découvert la langue française comme une langue étrangère. Et ça, c'est une pathologie et un vide qui se guérit jamais. Donc ces trois tomes qui sont consacrés à l'existence de ce narrateur et à ses vicissitudes dans la langue française. Et en fait, ce nom est né dans les classes préparatoires, puisque moi j'étais assez naïf, j'arrivais des cités dans les classes prépa et j'avais collé des photos de ma famille sur les murs, dont une photo de ma grand-mère que j'appelais Mémé. Mais pour ces jeunes étudiants très lettrés, Mémé, ça pouvait pas être juste une mémé pour un pauvre môme. C'était le surnom, évidemment, dans Proust du baron de Charlu, et qui se fait appeler Mémé. Et comme j'étais déjà très fétichiste et photographe, ayant toujours l'habillement des cités, bon, j'étais un peu assimilé à un fétichiste comme Charlu, et le Mémé, de façon un peu argotique, est devenu Mémos. Et j'ai gardé ce nom-là parce que, en fait, c'est le premier moment où j'ai un autre nom et où je sors de mon armure des cités. Et en plus, oui, bon, le mot, c'est mon nom, quoi. Voilà, c'est devenu mon nom.
Donc c'est le double que vous utilisez.
Oui, voilà, il va suivre dans beaucoup de livres.
Vous êtes avec Wakami, vous lui racontez Zidane, mais il se passe un certain nombre de temps, un certain nombre de pages où vous rencontrez effectivement Zidane. Il se passe à peu près 200 pages, où vous racontez cette attente. Vous êtes avec un personnage qui s'appelle Russe, ou Russ, je ne sais pas comment l'appeler. Vous êtes en Espagne avec lui, à la recherche de Zidane, parce que Russ est son intermédiaire. C'est par lui que vous allez pouvoir être intronisé à la cour du roi Zidane. Mais voilà, Zidane étant ce qu'il est, il est inaccessible. Il faut un certain temps et de maintes péripéties avant de pouvoir le rencontrer. Et c'est raconté, vous le racontez dans le détail, parce que c'est seulement à la page 219 qu'enfin vous rencontrez Zidane. Il y avait une volonté pour vous de, non pas faire languir le lecteur, mais de raconter à Wakami dans le détail toute cette infinie patience, toute cette attente où vous êtes avalé notamment plusieurs vidéos de lui parce que vous ignorez son œuvre footballistique.
Je profitais du ressouvenir de Zidane pour vraiment décrire ce qu'est le monde moderne dans sa facette spectaculaire, c'est-à-dire que ce n'est pas juste opérer quand on se retrouve en position de juge, une critique sur le spectacle. Le football et Zidane et la télévision et tout ce qui tourne autour, c'est les rouages du monde du spectacle. Et je voulais décrire de façon domestique et non pas réaliste ni naturaliste, mais de façon domestique et lyrique et déceptive le chemin réel, le pèlerinage réel qui représente un voyage, plusieurs voyages de Paris vers Madrid et comment on accède à Zidane. Mais quand je dis comment on accède, c'est pied à pied, main à main, centimètre à centimètre. Et ça faisait partie de ce que je devais à l'ami aveugle, Wakami. Et puis c'est aussi un jeu réel sur le fait que, et assez drôle, on m'a demandé réellement à un moment de faire le plus gros livre jamais fait en France sur un sportif, à l'instar du livre sur Mohamed Ali qui pesait 10 kilos, donc on était parti dans un projet mégalomaniaque, et en gros, c'était quand même drôle et dérisoire, j'avais 100 jours, montre en main, pour faire un chef-d'œuvre de je sais pas combien de pages et de combien de kilos. Donc ce qui est très drôle, c'est que tout ça c'est une utopie en fait, mais une utopie réelle du marché du livre qui est ce qu'il est et qui veut faire un chef-d'œuvre avec une icône médiatique. Et en réalité on n'est pas comme un sculpteur de la Renaissance qui a un modèle qui va poser. Là moi je suis le photographe, je suis l'artiste, mais je n'existe pas. Le footballeur est roi. Et les chroniqueurs et les artistes qui vont faire sa statue ou son panégyrique sont inexistants. J'ai voulu montrer que, contrairement à l'époque de Pindare, où le grand sportif à cette époque était le vassal du chroniqueur, les grands lutteurs et les archers et les grands coureurs de cette époque donnaient toute leur fortune, tous leurs bœufs, leurs animaux, leurs bijoux dans des coupelles pour avoir droit, je ne dis même pas à un livre de 200 pages ni 500 pages, mais à une ligne dans les œuvres de Pindare pour être immortalisé aujourd'hui. C'est très ironique. L'impouvoir, l'impuissance de l'artiste à juger l'époque est flagrante, et du coup le footballeur est celui qui devrait quasiment être payé, supplié pour qu'on puisse même faire une belle photo, une belle statue de lui, ou dire, écrire une belle ligne sur lui. Donc je voulais montrer cette soumission du chroniqueur et de l'artiste aux icônes du temps. Bon, voilà.
Il y a cette anecdote assez savoureuse où vous êtes avec votre Leica, votre vieil appareil, mais ô combien symbolique, entouré d'une nasse de journalistes avec des appareils surpuissants que vous matez comme ça en disant « mais ça coûte une Twingo, c'est la Rolls-Royce de l'appareil photo numérique actuel ». Et il y a cette anecdote avec, je ne sais plus, je crois que c'était un Anglais ou un Belge photographe qui... pas vraiment se vous moque, mais en tout cas vous prend pour un amateur avec votre Leica. Seulement ce qu'il ignore, c'est que quelques heures après vous allez pouvoir être vraiment dans le sein des saints avec Zidane en tête à tête.
Et en fait j'ai l'air critique envers Zidane, mais la vérité c'est que contrairement aux autres, lui il a une conscience réelle de sa grandeur, il a une conscience réelle de la modestie qui est due au public et au peuple, mais il a la conscience réelle de sa grandeur. C'est quelqu'un qui a le sens inné de la noblesse, qui n'est pas né de l'aristocratie, mais qui porte toutes les valeurs immémoriales de la noblesse. Et le sens de la grandeur a voulu que sur la fin, il ait l'idée d'une survie. Il sait très bien, et c'est comme ça qu'on s'est entendu au départ, Il reste rien du tout des grands sportifs du passé, c'est-à-dire que c'est quelques photos, quelques cassettes vidéo. Si Johnny Westmuller n'avait pas fait du cinéma, on ne se souviendrait même pas qu'il a été un grand nageur. Et en fait, Mohamed Ali, il avait la chance d'avoir William Klein, Norman Mailer, tous les plus grands artistes, tous les plus grands photographes avec lui. Pelé, là, les gens qui l'ont vu jouer sont encore vivants. Dans 30 ans, il ne restera rien de Pelé. Platini, il ne restera rien que des vidéos dans les bacs à soldes à Barbès ou à Gilbert Jeune. Donc Zidane a très bien compris que la question de la survie, pour sortir du spectacle, il fallait faire une œuvre. Il a essayé de faire une œuvre sur le terrain, c'est-à-dire bien souvent il s'est désintéressé du fait de marquer des buts et il a voulu faire des fresques gestuelles, il a voulu opérer des signatures gestuelles sur le terrain, ça c'était son langage chiffré pour durer. Mais aussi, avant même que j'arrive, il avait fait un film avec Douglas Gordon et Pareno pour rentrer dans une épopée visuelle. Et quand on s'était vu à Paris avant de faire le livre, je lui avais proposé de faire comme au début de la photographie pour immortaliser tout son toucher de balle et sa technique extrêmement fine d'enroulage, de touchette, de rétro-frottis, enfin tous ces trucs délirants, de refaire comme à l'époque de Marais et des débuts de la photographie, un travail énorme en studio de chronophotographie sur des plaques et immortaliser ça sur des supports qui sont indestructibles. Donc ça, il était emballé. Donc ça, c'est pas tous les footballeurs qui sont capables de faire ça. Et quand il m'a fait venir, il avait plein d'impondérables, il m'a fait attendre, etc. Mais une fois que c'est parti, j'ai réalisé qu'il avait décidé de me mettre à tous les endroits stratégiques et de me laisser rentrer à tous les endroits où jamais personne n'était allé. Et à un moment, le livre que je faisais, c'était pas un livre pour le public, j'ai aussi compris qu'à un moment, il me faisait faire son album de souvenirs, c'est-à-dire que le jour de ses adieux au stade Bernabéu, il m'a mis avec sa famille, il voulait que je photographie l'émotion totale de sa mère, et c'est ce que j'ai fait, de son père, toute cette famille en pleurs, comme dans une fresque espagnole de pèlerinage. Et peu à peu, j'ai réalisé que c'était pas moi l'artiste, que c'était lui qui m'agissait en tant qu'artiste et qu'il opérait des décisions en moi et je photographiais ce qu'il avait décidé de vouloir voir.
Il y a cette anecdote à ce propos pour cette scène où vous lui demandez si vous auriez une bonne place pour ce match.
Ah oui,
il vous
oui,
dit, mais ce sera avec la maman.
C'est le truc des cités, j'ai toujours peur d'être grugé ou d'être dupe, alors il me donne la place la veille de son... Parce que déjà, j'arrive pour faire le livre, et là, on apprend qu'il décide, lui, d'arrêter sa carrière. Donc, j'ai même pas commencé le livre que lui, le jour même où je l'attends, il arrête sa carrière. Et donc, il me dit, on va quand même travailler. Le lendemain, c'est son dernier match au stade Bernabéu. Et il me tend le ticket. Et moi, je lui dis, je serais bien placé. Il était déjà un peu loin. Il se retourne. Il me regarde un peu à Clint Eastwood. Et sans même sourire, il me dit, tu seras avec ma mère. Et donc, ça voulait dire, ne me demande pas si j'ai bien fait, parce que j'ai fait pour toi. Et maintenant, ne parle plus. Et il y avait ce truc chez Zidane de timidité, mais il y a une très, très grande violence en lui. Et ça, c'est clair, c'est visible.
Et on va rester sur cette scène, parce que cette scène, la manière dont vous la racontez, Philippe Bordas, effectivement, on est dans un tableau. On est dans un tableau parce que y a la maman, il y a votre habit à vous. Vous êtes bien habillé exprès.
J'ai essayé, oui.
Et vous racontez cette manière où finalement vous le regrettez presque de vous être habillé bien exprès parce qu'il y a comme un décalage. Et puis vous parlez longuement de la figure du père, le père qui est là, le père dont vous racontez un autre passage de votre livre, qu'il était à l'endroit où il y a le stade de Saint-Denis, le stade actuel, qu'il n'a pas participé à la construction, mais que voilà, il faisait des travaux publics, sur ce lieu même. Et là, dans ce stade, en Espagne, pour les adieux de Zidane, il y a sa mère, il y a son père que vous décrivez, il y a vous aussi que vous mettez en scène, on assiste à un tableau.
Là, ce que j'ai fait, c'est une synthèse. Donc, je fais ma chronique pour le lecteur, mais je la fais pour l'aveugle en premier. Donc, il y a un effet de mise en abîme où l'offrande au lecteur se fait par l'offrande à l'ami aveugle. Mais l'arrivée de la famille, ça, c'est le moment capital pour comprendre Zidane. J'ai voulu la faire en synthèse. Des grandes références littéraires pour moi qui sont liées à l'Espagne, à la royauté, c'est-à-dire Saint-Simon. l'arrivée de Saint-Simon en Espagne et sa description de la cour royale, et évidemment Velázquez. Donc là, tous les personnages, désuets, sympathiques, cousins, cousines, copains de Zidane, la mère, le beau-père, etc., tous les gens, un par un, sont décrits comme l'arrivée des personnages royaux à la cour, et peints et écrits. Peints et écrits, c'est ça le truc.
Oui, parce que là, vous venez de parler de Saint-Simon. Enfin, nous allons pouvoir parler de Saint-Simon, parce que vous avez trouvé votre Louis XIV en la personne de Zidane. Et puis, il y a la cour de Zidane, les photojournalistes. Il y a le courtisan privilégié, vous. Il y a l'intercesseur qui vous donne accès au roi, à Louis XIV, à Zidane, donc il y a Russe. Mmh. Là, on a tous les éléments de la cour. Tous les éléments pour vous étaient réunis pour enfin pouvoir, non pas, enfin, pouvoir faire référence à Saint-Simon. C'est-à-dire que lorsque l'on lit votre texte, on sent que c'est voilà que la référence va être Saint-Simon, cette belle langue classique française, et que vous avez enfin tous les éléments pour pouvoir faire texte, pour pouvoir faire langue.
Bon, c'est Saint-Simon, oui, mais c'est Saint-Simon revu par un enfant des cités. Donc, c'est la fureur de Saint-Simon, l'énervement justicier de Saint-Simon, revu et filtré par la fureur du môme des cités, qui n'arrive pas bien à parler français, mais qui a en ligne de mire cette espèce de discours enragé qui étrangement est une composante historique de la langue française qui a été la plus niée par les classiques. Mais je pars toujours de Saint-Simon, de Rabelais, de Agrippa de Bigné, parce que ça, c'est le grand départ de la langue française. Et ce qui se passe avec Zidane, c'est que la première fois que je vois tous les plus grands joueurs qui sortent du vestiaire au Real de Madrid. Déjà, il y a le Real de Madrid, hein, donc rien que le nom vous pose. Et pour un joueur, rentrer au Real de Madrid, c'est déjà être rentré dans la cour des cours, hein, c'est... Et là, tous les joueurs sortent, ils sont flasques, ils sont vulgaires, ils traînent la jambe, ils sont voûtés, ils ont les mains dans les poches, ils se grattent les fesses à travers les poches. Enfin, ils jettent un œil sur le cul de la diététicienne. Enfin, c'est même pas pensable. C'est des titans qui sont payés des centaines de millions d'euros. Et à un moment, Zidane arrive. Et quand Zidane arrive, c'est rien que le port, la façon d'avancer. Il est déjà dans un tableau qui n'appartient pas au temps. Et pour le peu que je vois les premières fois, je réalise tout de suite qu'il y a une délicatesse et une fureur en lui. Il y a un toucher, il y a un toucher de regard, il y a un toucher de main, il y a un toucher de parole. Toutes ces choses-là qui sont le mélange de vertu et de fureur, les composantes primitives de la noblesse. Et très très vite, je réalise que le livre, que le discours... Le récit que je vais faire pour l'aveugle, d'un seul coup, j'arrive chez l'aveugle par la gare du Nord, et moi j'étais dans les cités à Sarcelles, et on arrivait tout le temps par la gare du Nord, tous en bande, tous les petits crevards des cités, avec le ballon au pied, on rentrait dans Paris balle au pied. Et d'un seul coup, ma voix de chroniqueur face à l'aveugle devient aussi la voix qui va charrier l'histoire de Zidane le prince, mais aussi celle des petits crevards, qui à l'époque, déjà, étaient en soumission de la grandeur, parce que ça c'est quelque chose de capital pour moi, c'est d'être tout le temps... partagé entre la louange et le blâme. Je sais blâmer fortement, mais je pense que savoir admirer est une vertu principale. Et donc, à l'époque, on avait déjà un petit roi qui s'appelait Sangaré, et qui était le plus grand joueur de Sarcelles, qui a été pris au Werder de Brême. Et pour lui, on n'était pas jaloux, on était dans le sacrifice et l'abnégation. On portait son sac, on portait sa gourde, ses souliers. Et je me suis retrouvé d'un seul coup dans la même position avec Zidane, et le récit se construit à un moment, vraiment, au moment où je réalise que Zidane vient des quartiers, mais ce sont aussi les quartiers de noblesse. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un aspect méritoire du lieu, et il y a une transformation de soi, il y a une décision, et Zidane devient le héros de mon récit, le héros de mon enfance, et un héros français, dans le sens où il reprend tous les éléments... tous les éléments de distinction, de fureur, d'emportement et de précision et d'excellence qui sont celles, quand je parle de la noblesse, il est bien évident que je ne fais pas référence de façon traditionnaire ou traditionnaliste à une restauration quelconque et à des vieux grisons avec des particules. Je parle du principe constitutif de la noblesse. Et c'est celui de l'excellence et d'une, comment dire, d'une splendeur naturelle, d'une allure, d'une superbe, d'une vitesse. Mais ça, ce sont aussi des éléments littéraires. Et très très vite, Zidane devient un héros aristocratique et devient aussi, dans la transformation qu'il a opérée sur lui-même entre être un petit tâtonneur des ciments dans son quartier de la Castellane et ce prince qui invente un phrasé, il devient aussi un double littéraire.
Et ça va vous permettre d'exploiter une langue, d'exploiter, on peut même plus parler de registre de langue, mais votre langue où vous allez pouvoir à la fois mélanger ce parler savant, ce phrasé de Saint-Simon, ce vocabulaire d'une gigantesque richesse, à la rapidité de la langue de votre enfance, à cette sorte de défense naturelle où il faut quand même s'imposer aussi par, non pas l'invective, mais par la vanne qui tue. Mmh. Et vous arrivez à créer, à élaborer, à faire langue en mélangeant à la fois la langue la plus élaborée, la langue française classique, à un phrasé très populaire et à faire langue, j'allais dire, pour tous.
Ah oui. Bon, en fait, je suis à la fois dans la louange et l'invective, mais je suis pour la concorde. C'est-à-dire qu'en fait, en France, depuis la Révolution française, on vit dans une guerre civile énorme. C'est-à-dire que la bourgeoisie a pris le pouvoir. Et ça fait 2 siècles et demi maintenant qu'en France, il y a une classe de plus en plus large qui descend jusqu'à la toute petite bourgeoisie qui envahit et infecte tous les cœurs et qui a trouvé son vecteur ultime dans la télévision. Mais ça fait 2 siècles que le haut et le bas de la société française, qui étaient ses composantes majeures, à savoir l'aristocratie et le peuple, sont en butte à une violence sans frein de la bourgeoisie au pouvoir. Et les deux plus grandes capacités verbales que la France ait jamais eues, ça a toujours été celle de l'aristocratie et du peuple. Donc moi, j'en reviens aujourd'hui, je suis en réfutation totale avec la langue que je lis autour de moi, parce que c'est une langue complètement diluée et qui est une dilution de la langue elle-même très diluée depuis le XVIIe siècle, qui est la langue classique. Donc j'en reviens de façon drôlatique et sarcastique à vouloir accoler, comme c'était le cas au XVIe siècle, à une époque où la noblesse et le peuple parlaient quasiment le même langage, vouloir accoler les classes sociales que la bourgeoisie a éradiquées et opérer un manifeste poétique où je veux raccorder ce qu'il y a de plus puissant dans la langue française. Et le livre est obscène sur 3 points, c'est qu'il fait l'éloge des 3 choses qui aujourd'hui sont totalement tabous. C'est 1, la langue française, 2, l'aristocratie, et 3, le peuple. Donc là, ce livre est extrêmement simple, mais parle de 3 choses qui sont les choses qui tiennent notre nation depuis toujours, qui sont les plus niées. Donc le livre, tout picaresque et footballistique et un peu démago qu'il soit par moment, parce que je sais très bien qu'en poussant l'éventail marqué Zidane, j'attire des esprits faibles qui vont croire qu'eux, ils vont être extrêmement déçus. Il n'y a rien à tirer, il n'y a pas de scène sexuelle, d'histoire d'argent, de scène people à sortir de ce Zidane-là. C'est un Zidane dans son essence, c'est un Zidane dans sa perfection. Et donc là, c'est un Zidane qui fait exemple pour les mômes des cités, qui fait exemple pour les écrivains, puisqu'à un moment, ce gamin dont le père a construit à 17 ans des bâtiments sur le lieu du stade Saint-Denis, cet enfant de l'immigration qui parle à peine français, qui est perdu, à un moment donne le titre à la France à Saint-Denis. Il y a tout un travail sur Saint-Denis, qui est le lieu magique, puisque nous-mêmes, enfants, vivant à Sarcelles, on vivait près de là. Et donc il y a une fascination pour la question de la royauté, de la monarchie. C'est pas, je le redis, c'est pas un point de vue monarchiste ou traditionnaliste. C'est la nécessité de ne pas perdre l'idée de la grandeur. Et on ne peut pas écrire, en français si on ne garde pas l'idée de la grandeur. Donc il n'y a rien à dire à ça. Je veux dire, Proust et Céline ont l'air opposés, mais eux, dans un sens et dans l'autre, ils ont retravaillé les deux bases. Les deux bords que la bourgeoisie avait voulu éradiquer. Les bourgeois pensent qu'ils sont faits pour lire Proust, mais Proust ne concerne absolument pas la bourgeoisie. Et d'ailleurs, l'obsession commune entre Proust et Céline, elle est majeure. C'est celle de la, entre le langage du peuple et la langue aristocratique et la question de l'aristocratie. Donc en fait, Zidane devient le vecteur d'un questionnement sur la grandeur. Et la façon dont je parle de Zidane, je me fais le vecteur d'un questionnement un peu historial sur le pourquoi de l'effondrement de la langue. Et j'ai le droit de poser cette question-là sans être pédant comme le seraient les Richard Millet ou les déplorants. Parce que moi, je viens des cités. C'est-à-dire je ne parlais pas français et j'ai été pris d'amour pour la langue française, mais en secret. Et j'ai appris le français en secret. J'ai écrit quasi parfaitement, entre guillemets, le français sans le parler. Donc j'étais dans une schizophrénie totale parce que la honte du français était celle des cités. Mais finalement, cette honte de la langue française, des gamins des cités, ils ne supportaient pas que je lise de trop. J'avais l'air d'un PD si je lisais Balzac ou Proust. Hein, voilà, c'était comme ça. Mais après, quand je suis arrivé à Paris, mais finalement, cette exigence de haute langue, elle était tout aussi mal jugée, parce que la langue qui domine aujourd'hui, c'est une langue qui est dérivée du franglais, qui est syntaxiée comme de l'anglais, simplifiée comme du scénario de série anglaise. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans les hautes sphères culturelles a encore rapport à un usage limité du français. Voilà, donc il y a aussi dans ce livre-là le manifeste qui est dans le titre. Chant furieux, c'est le manifeste pour une langue chantée, musiquée de façon caricaturale aussi, parce que c'est la langue des petits piou-piou des cités. Donc il y a l'aspect du babil et des onomatopées, des rimes internes, des bourrimées. Il y a tout un aspect un peu cheap de la prosodie dans mon texte, qui est mélangé avec des périodes plus nobles. Mais j'ai voulu, et c'est là où on revient enfin à Saint-Simon, qui mélange le très haut et le très bas, mêler des morceaux orduriers et des morceaux purs.
Pour prendre juste un exemple, il y a la manière dont vous parlez, par exemple, des cadres supérieurs. Je vais vous lire un petit peu. « Les messieurs avalissent cabine harnachée de l'ordinateur et du porte-dossier, parlent fort depuis le terre-plein. Ils ne baissent pas. Ils allument un second portable et lèvent le bras vers les voituriers. Ils accaparent les derniers silences et salissent la nuit. Bajoux éclaircis aux fluores des claviers. Bardés de mots à deux syllabes comme les mâles lettrés. Flétrisseurs du genre français. Sans gêne à montrer leur obéissance à la Braxas des firmes. Esclaves comme tous. Larbins des filiales. Moudjiks des marques. Battés sous le lexique transnational. Les décideurs en impair lancent des morceaux de la sous-langue des entreprises sous le tronc de fonte des lampadaires. »
Voilà, quand vous arrivez à la gare du Nord, il y a les sept portes de l'entrée, comme les portes de l'enfer, et vous avez trois portes, les portes de droite et les portes de gauche. Les portes de droite accueillent la déversée des malparlants des cités, qui arrivent maintenant de très loin, du Vexin, de la Outre-Picardie. Et là, bon, ben voilà, c'est la langue de mon enfance, je la connais par cœur. Et puis, de l'autre, alors ils sont habillés comme dans les habits classiques des marques, survêtes, casquettes, tout ça. Et de l'autre côté, à gauche, les mecs en costard avec les valisettes qui arrivent du Thalys, de l'Eurostar, etc. Vous vous mettez au centre, et j'ai pris la Vogue par la main. Je lui ai dit, maintenant, tu vas te mettre là, tu vas comprendre ce que c'est devenu ta langue française si belle que tu me récites toute la journée, parce qu'il y a un aspect un peu pédant et drôle chez la Vogue Lantillé qui me remontre tout le temps avec ses références, etc. Mais je lui ai dit, descends dans la rue, viens dans ma gare, parce que c'est ma gare, la gare du Nord, mets-toi au centre et écoute le double flux, merde du haut, merde du bas, de deux langues déviées qui s'affrontent. Donc aujourd'hui, la France, là, il faut réinventer une autre façon de parler. Et le problème, c'est que cette façon de parler, elle n'est pas portée que par les mômes des cités ou que par les élites, elle est ailleurs, elle est sur le lieu de la grandeur française qui a été oubliée par tout le monde. Donc je dis que, et les élites doivent revenir sur le lieu de la grandeur française, et les IVA, et les mecs des cités, comme l'a fait Zidane, doivent retrouver dans leur cerveau et dans leurs pieds, le lieu de l'exception. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi chez Zidane, c'est qu'il a le sens de la grandeur. Et ça, c'est quelque chose qui est splendide à voir, parce que c'est aussi une façon de se retenir, de maîtriser son élocution et tous ses gestes. Et jusqu'à la fin, du début à la fin de sa carrière, Zidane est quelqu'un dont les gestes, de façon antique, sont mythologiques et calculés. Le tout dernier, le coup de tête étant évidemment sa signature absolue et préméditée.
Oui, parce que c'est là aussi... parce que c'est pas seulement une interprétation, vous êtes tellement dans cette langue qui permet de dire Zidane, et tout ce que vous venez de dire nous montre à quel point Zidane Voilà, et peut incarner cette figure-là. Que vous faites de ce geste symbolique, important, fondateur, fondamental du coup de tête contre Materazzi en finale de Coupe du Monde, finale perdue par la France? Vous en faites pas un geste de violence, vous en faites pas un geste de bêtise, mais vous en faites un geste de noblesse, vous en faites un geste de que vous expliquez dans Chant Furieux.
Ouais, c'est très compliqué. Bon, là, il y avait la folie de Zidane qui voulait absolument rentrer dans les trois meilleurs joueurs de tous les temps, derrière Pelé, Maradona. Et en troisième position, il y avait beaucoup de monde avant cette Coupe du Monde. Il y avait Beckenbauer, il y avait Ronaldo, il y avait Ronaldinho, il y avait Cruyff. Enfin, c'était une sorte de place vacante sur le podium où ça grouillait de génie qui était un peu en dessous de Pelé, Maradona. Et toute sa vie, Zidane a voulu égaler Maradona, qui était le héros de notre enfance. Et le héros qui est devenu héros par le bas et par le haut, héros par le bas avec la main de Dieu, et héros par le haut avec ses dribbles géniaux, et surtout un truc qui avait rendu fou Zidane, une cassette vidéo dont il parlait tout le temps, où on voyait Maradona tout seul à l'entraînement, mettre la balle sur le point de pénalty et s'entraîner à tirer non pas dans les buts, mais sur la barre transversale, et laisser la balle rebondir avec un angle suffisamment parfait pour qu'elle lui revienne dans le pied, et ainsi de suite, 4 à 5 fois, sans bouger son cul, il renvoyait la balle et ça lui revenait dans le pied. Et Zidane était terrifié par cette scène. Et il s'est fait filmer une fois en disant bah, « Je ne suis pas n'importe qui, je suis Zidane quand même, regarde. » Et il s'est mis devant le but et au bout de 7 tirs, il n'a toujours pas touché la balle. Quand il l'a touché, ça tombait par terre. Et donc le jour de la finale, Zidane, avant la Coupe du Monde, il était blessé. Moi je l'ai vu, il n'avançait pas et puis on se parlait, on se tutoyait. Ça faisait une petite bande, il y avait ses potes de Marseille, ses frères. Et puis moi je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as ? » Enfin en gros, t'avances pas. Et lui... Mais ça, j'ai cru que c'était de la mégalo. Il me disait, je serai en finale. Il le disait à quelques gens, je serai en finale. Mais c'était impossible d'imaginer ça. Donc moi, je le suis. Je le vois contre l'Espagne qui marque. On est tous en pleurs tellement. Moi, je sais que d'un seul coup, sa prophétie est en train de se réaliser. Et je suis là contre le Brésil, où il fait le plus grand match de sa vie. C'était pas tant un match qu'un manifeste stylistique où il a fait une rétrospective de tous ses coups en accéléré. Pour faire son échantillonnage avant la mort, c'était comme son testament. Il savait qu'il n'avait plus que deux matchs. Celui contre le Brésil, il fait son testament stylistique. Et après, il y a la finale contre l'Italie. Et là, c'est absolument extraordinaire parce qu'il sait qu'il va falloir maintenant qu'il soit le meilleur derrière Pelé et Maradona. Il veut la troisième place. Donc, il a décidé, il faut qu'il égale Maradona. Et là, il y a cette occasion, il y a ce penalty où il tire sur la barre et la balle rentre. Et on appelle ça la panenka. Mais c'est quoi la panenka? C'est Zidane qui se dit, il me reste un match. Si je suis Zidane, si je veux monter sur le podium, je vais faire là en match devant la terre entière ce que Maradona faisait à l'entraînement tous les jours. Et il le fait. Donc là, il vient d'avoir égalé Maradona par l'aspect le plus haut. Et à la fin du match, il pense qu'il va gagner. Et quand il met la dernière tête contre Buffon et que Buffon miraculeusement l'arrête, il pousse un hurlement de rage, qui est un hurlement d'animal, de cerf qui est en train de mourir. Là, il sait que c'est fini. Et évidemment, il y a les insultes de l'autre, mais symboliquement, en faisant un geste aussi précis, aussi propre que le coup qu'il a donné à Materazzi, qui est un coup de karaté, qui s'appelle Attaque Tsuki Direct, qui est noté 10 sur 10 par tous les spécialistes du karaté, en faisant ce geste parfait qui est totalement prémédité, il prend une décision froide, mais totalement inconsciente, mais dans la violence de l'action, il y a une vérité, qui s'énonce néanmoins. Et là, il égale Maradona par le bas, dans le même match. Et le lendemain, il n'y a que les journaux italiens qui parlent de la victoire de l'Italie. Donc dans le monde entier, la seule chose qui est à la une, c'est Zidane, son geste, sa fureur. Et Zidane, aujourd'hui, est dans les 5 et dans les 3 meilleurs joueurs. Donc, moi, j'ai vu la folie d'un homme qui, sur un aspect strictement sportif, a opéré des petites magies, des étrangetés comme ça. Moi, je les ai interprétées comme ça. Je pense que lui ne sera absolument pas d'accord. Mais je suis obligé d'interpréter certaines choses. Et lui aura trop de pudeur pour avouer certaines choses. Ça, je le sais aussi.
Cette anecdote, enfin, ce qui n'est pas une anecdote, c'est ce match de Zidane, ce coup de karaté, ça me fait penser à certains de vos souvenirs d'enfance. À ce personnage dont on n'a pas encore parlé, vous nous aviez parlé de Sangaré, le footballeur qui a réussi. que vous appelez Sidi B.
Oui, Sidi B, oui.
Nous avons parlé de Wakami, même si ce n'était pas un ami d'enfance. Mais il faut parler de Finioul. Finioul, autre qui faisait partie de la bande d'enfance avec Sidi B. Finioul était d'origine asiatique. Finioul, bon, il y a pas mal d'anecdotes avec Finioul qui sont savoureuses, et la manière dont vous les dites les rendent vraiment épiques.
Ouais, c'est l'âme noire, Finioul.
Mais il y a ce moment où Finioul vous donne un coup de karaté dans le dos pour une histoire de jalousie, pour une histoire de fille. Vous êtes dans des WC, et puis il vous attaque par derrière, par jalousie, parce que vous y avez quelque part piqué sa fiancée. Et ça, quand je l'ai lu, voilà, j'ai pensé à ce que vous disiez aussi de cette finale ratée par la France, où Zidane fait ce geste contre Materazzi. Et j'ai l'impression que dans votre livre, il y a quand même plein de liens qui ne sont pas seulement...
Oui, parce que là...
Qui sont liés, ces deux coups de karaté-là, celui que vous avez reçu et celui que donne Zidane, ça vous lie complètement.
Mais ils sont en vis-à-vis, parce que moi, je suis attaqué par traîtrise, de dos. Et donc, Finioul, ayant fait ce geste-là, tout de suite doit subir la justice de Sangaré, qui est notre chef. Et là, c'est immédiat. Il est interdit de terrain. Il ne peut plus jamais revenir sur le petit terrain de foot pourri sur lequel on joue. Mais quand je dis ça, c'est interdit de terrain. Mais il fait son geste de dos. Et le truc de Zidane, c'est que Zidane a décidé de punir Materazzi. Il le double, il pivote, il lui fait face, il arme son coup. Materazzi a encore le temps de répliquer. Zidane fait face. Zidane fait face. C'est-à-dire que c'est une punition de face. Ça change tout. Donc voilà, il n'y a rien à dire. C'est dans le code de l'honneur. Mais ce n'est pas un coup de chien. Et donc Finioul, dans ce livre, c'est l'âme noire. C'est l'âme noire de la cité. C'est le prototype proto-historique des racailles. C'est-à-dire, il est absolument insensible à la question de la grandeur et de la noblesse. Toute petitesse lui est bonne à vivre. Donc c'est toujours une... c'est le retour du goupil des Fabliaux, je veux dire, c'est le personnage néfaste et noir. Et puis c'est surtout celui qui ne comprend rien, qui voit pas qu'on est dans une nasse, et que c'est pas en se triturant les uns contre les autres, en se volant les uns entre les autres, tous pauvres qu'on était, qu'on va s'en sortir. Et parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les cités ne sont quasiment plus remplies que par des finioules. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des grands voyous qui allaient faire leurs opérations à Enghien-les-Bains ou à Paris, qui allaient voler dans les beaux quartiers. Aujourd'hui, il n'y a que du piratage de pauvres sur pauvres. Vous voyez, je veux dire, je ne veux pas piquer les Nike à un pote avec un couteau à cran d'arrêt, ces trucs qu'on n'avait jamais vus. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est la victoire des finioules. Bon, alors moi, c'est du communisme labiche, hein, comme dirait Céline. C'est-à-dire que là, j'ai fait un portrait des cités extrêmement folklorique et doucereux d'un temps. Où on était tous à égalité de misère, arabes, juifs, viettes, petits français de Corrèze comme moi, tous dans une arche de Noé, embarqués à égalité. C'était le bon temps quelque part, parce qu'il n'y avait pas de suprématie, il n'y avait pas de racisme. On ne savait même plus de quelle couleur on était, mais on s'appelait très violemment par nos couleurs. Et le jaune, le feuge, le rebeu, toi le blanc, ça ne nous posait pas de problème. Mais c'est une vision totalement idyllique. Et je sais qu'elle n'existe plus, et je sais que moi, quand je retourne dans ma cité, je suis juste un blanc et un bobo, et que c'est même pas là, je n'existe pas, je suis ostracisé chez moi, alors que les mecs, je peux leur dire, j'ai vécu là avant toi, c'est même pas la peine, je peux même plus retourner chez moi.
À un moment donné, vous les recherchez, ces personnages, vous, adultes, vous avez cette phrase où vous êtes, je crois, dans la gare, justement, sans doute, dans cette gare-là où vous débarquez, où vous êtes à la recherche de mes Finioul, il y a un autre personnage aussi.
Mousse,
voilà, ce personnage Mousse aussi. Vous dites, mais qu'est devenu le frère de Mousse, qui est devenu délinquant. Vous les recherchez, vous ne les trouvez plus.
Ah oui, bah c'est la vérité des choses. Bon, c'est un aspect, il y a un petit côté Ruth Boeuf, que sont mes amis devenus, hein.
J'ai retrouvé le passage. Finioul, insusceptible d'études, incapable de fuite, s'était établi à vie dans le forçage des cadenas de moyenne force des pétrolettes de Pierrefitte et Grolet. Puis vous dites, je cherchais traces de Mousse et de son frère hissé en haute voyoucratie et disparu de cadastre tandis que servilement j'étudiais le français de la capitale.
Ah oui, bah moi j'ai... Si je sympathisais avec les profs maoïstes, je me faisais traiter de PD. Si je lisais un livre, je me faisais traiter de PD. Donc il y avait un tarif. Hein. Très très vite, j'ai continué à parler la langue courante. Et puis je me suis caché des études secrètes que je faisais du français. Parce que j'avais une double. J'étais servile de deux choses. De l'ostracisme des mecs de la cité qui ne voulaient pas qu'on travaille. Et de l'ostracisme des profs qui, à part les trotskistes et les maoïstes, qui étaient des profs de très haut niveau, qui étaient venus là pour nous sauver, à l'époque où il y avait encore des gens de gauche qui avaient une puissance de feu colossale, parce que ces gens d'extrême gauche, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais ils nous ont tout donné, hein, ils nous ont sauvés, enfin moi ils m'ont sauvé. Et paix à eux, vraiment. Mais en revanche, il y avait aussi tous les profs qui étaient simplement là aux ordres de l'industrie pour faire de la chair à CAP. Moi, j'étais le meilleur dans toutes les matières, sauf les maths, mais j'avais été orienté pour faire un BTS ou un CAP de chauffagiste ou je ne sais quoi. Donc, faut voir. Et après, je me suis retrouvé en classe prépa, j'étais dans les meilleurs sans problème. Donc, il y avait une double lutte à faire quand on aimait la langue française, hein. C'était se battre contre les profs qui n'acceptaient pas que vous soyez bon en français et contre les potes qui aussi ne voulaient même pas qu'on sorte du Babil en verlan. Et bon, moi j'adorais ça, mais c'est le Babil en verlan qui m'a formé littérairement, hein, parce que dans les cités, vous pouvez survivre que si vous êtes le plus fort physiquement ou que si vous êtes le plus fort verbalement. De toute façon, si vous êtes faible, vous survivez pas. Ça, c'est clair et net. Il faut rester, vous restez caché. Donc, moi, j'ai survécu par les mots, hein. J'étais trop faible physiquement.
Cette langue, le français, à aucun moment vous l'avez pris comme une langue de l'oppresseur. Vous avez parlé de langue étrangère que vous avez apprise, mais à aucun moment, Philippe Bordas, elle vous est arrivée comme une langue de l'oppresseur.
Bon, non, non, bon, moi c'était plus facile pour moi, voilà, pour mes potes, j'étais francaoui, c'est-à-dire que j'avais déjà un coup d'avance, hein. J'avais mes parents qui pouvaient maîtriser la langue, mes parents ils n'avaient pas fait d'études, mais ils avaient déjà un vernis suffisant pour qu'on parle proprement. Pour mes potes, c'était pas le cas. Mais la langue, non, moi la langue c'est quelque chose qui m'est arrivé dessus. Pratiquement par hasard, et après la ville était énorme, divisée façon Le Corbusier, c'est-à-dire que pour acheter un beefsteak, il fallait marcher 1,5 km, pour aller à la bibliothèque, il fallait marcher 3 km. C'était les théories de Le Corbusier, il fallait tout séparer. Et surtout pour lui, séparer les pauvres des riches, donc ça a été très réussi. Mais du coup, aller lire un livre, c'était un effort physique. Mais moi, je lisais quasiment un bouquin par jour, j'étais obsessif, et j'avais un dictionnaire, le micro-Robert, c'est pour vous dire le délire autodidacte. C'est pour ça que j'ai jamais accepté la façon dont Sartre se moque de l'autodidacte dans la nausée. Ça m'a toujours paru immonde. J'avais le micro-Robert que j'ai lu entièrement. Tous les mots que je ne comprenais pas, je les ai copiés sur un répertoire pour faire un deuxième dictionnaire. Et ensuite, j'ai relu mon répertoire pour faire un troisième, plus petit de ce que je comprenais toujours pas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je connaisse tout le micro-Robert. Voilà, c'était ça la lutte dans les cités. Donc il y avait un aspect autodidacte et bricoleur, et quand je suis arrivé en classe prépa, bah, j'étais face, c'est le truc de Bourdieu, il n'y avait que des héritiers, quoi. J'étais pas du tout à ma place, hein. C'était très étrange.
Parce que votre expérience dans Chant Furieux, Philippe Bordas, elle fait pendant aussi à l'expérience de langue de Pierre Guyotat. Bon, Pierre Guyotat est mon principal dada. Mais dans Pierre Guyotat, c'est un exercice de transformation, de réécriture, de réusage de la langue française, parce que pour lui, il y a le français comme aussi langue de l'oppresseur, notamment aussi comme langue de l'esclavagiste. Vous, la langue française ne vous est pas apparue du tout sous cet aspect-là.
Non, 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 moi je suis sensible à la musique, à la rythmique. Moi, ce qui m'intéresse dans le français, c'est son aspect vibratoire violent, c'est une sorte de véhémence. Le côté furieux, la fureur, bon, c'est un concept littéraire très ancien, hein, sans parler de l'Arioste, mais c'est une sorte de vibration violente. Je ne me suis pas battu contre le donné historique du français sur le moment, j'ai simplement essayé de retrouver, désenfouir ce qui, dans la langue, me paraissait le plus funky, le plus vibratoire et qui était enfoui. Bon, j'ai refait quelque part, je ne suis pas bien neuf là-dedans, ce qu'a fait Céline, qui a voulu retrouver une vibration perdue. Mais Guyotat, contrairement à lui, je ne fais aucun exercice, je m'appuie sur le donné, je ne suis pas du tout naturaliste, mais je m'appuie sur le donné que je remets en musique, que je cheville autrement pour ressouder le haut et le bas, et dans mon travail poétique, revenir à cette osmose entre l'aristocratie et le peuple, arriver à trouver un swing qui soit celui d'une aristocratie populaire, qui est quelque chose de très spécial. Il y a une splendeur de la langue qui ne naît que par le haut et le bas. Il y a un frottement entre les deux qui doit être fait, et là, l'étincelle vient. Alors, la question de Guyotat, c'est que pour moi, ça, je trouve ça très beau, mais c'est trop décalé. Je pense que je suis trop... je ne sais pas comment expliquer. Moi, je suis tout le temps dans ma langue, et je ne peux pas faire comme lui, c'est-à-dire arriver d'un seul coup à l'extrême d'une langue entièrement inventée ou refiltrée, et après, dans les autres livres, écrire un langage totalement réaliste et de confidence bourgeoise, je ne comprends pas. C'est-à-dire que lui, il a la chance de pouvoir écrire deux langues, donc une qui est expérimentale et l'autre qui est celle de sa vie quotidienne. Moi, tout le temps, je suis dans le même swing. Et c'est là où je me rapproche beaucoup de Céline, qui quasiment, quand on l'écoutait, gardait la même vibration physique, quoi. Alors le truc de Guyotat, c'est que à un moment, il est très physique, mais d'un physique extrêmement fantasmatique, comme toute cette génération qui a rêvé que l'écriture soit sexuelle et physique, mais qui, à un moment, n'était plus physique du tout. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment... j'écris sur Saint-Simon et j'écris mes bouquins en écoutant James Brown et Fela. J'ai besoin d'un truc, j'ai besoin d'un funk, j'ai besoin de retrouver cette longueur d'onde. Et bon, j'ai un respect énorme pour Guyotat, parce que contrairement à ceux de sa génération, il ne s'est pas effondré, il a continué, il n'a pas trahi, et il a supporté la misère et la faim pour aller jusqu'au bout. J'ai un respect énorme pour Guyotat, qui pour moi est un héros, et qui a payé cet héroïsme par un abandon total de ceux qui l'ont soutenu à l'époque. Donc sa trajectoire, je la trouve héroïque et admirable, mais musicalement et dans sa conception du français, c'est très étrange, parce que lui, c'est un spécialiste énorme de la musique, il a une connaissance de la musique classique exceptionnelle, et de la langue française aussi, mais je sais pas, c'est votre dada à vous, moi ça l'est un petit peu moins pour moi, sans doute.
Ma dernière question, c'est pour faire une sorte de synthèse sur votre usage de la langue, la langue populaire, la langue du bas, la langue du haut, appelons ça comme ça, qui vont frotter, qui vont faire excitation ensemble, avec à la fois comme sujet cette épopée Zidane, cette épopée de vous, photographe, autour de Zidane, cette épopée aussi, on vous voit beaucoup accompagnant Wakami à Paris. Mm-hmm. Il y a beaucoup de géographie aussi, toute la géographie de Paris, de sa banlieue, puisque vous accompagnez
le grand sujet, c'est
Wakami.
Là,
oui. Donc on est dans une épopée qui est aussi un déplacement dans la géographie et un déplacement aussi dans l'histoire. Il y a énormément de citations, de références à l'histoire. Est-ce que dans Chant furieux, ça sera ma dernière question, Philippe Bordas, vous vouliez fabriquer une œuvre d'art totale?
Non, je n'ai pas pensé à ça du tout, mais ce que je sais, c'est que très vite, j'ai vu que le livre était un livre sur la langue française et sur la langue que j'ai aimé parler, parce que très vite, au début du livre, alors que je parle à Wakami, que je commence à parler de Zidane, à un moment, le narrateur s'énerve et en parlant de ses potes des cités, dit « je garde ce droit monarchique de parler salopement et nargué ». Et d'un seul coup, je me dis « mais ça, c'est pas dans l'ordre du récit, c'est autre chose ». Et j'ai laissé cette autre chose qui est devenue un sujet à part entière. Mais le livre, effectivement, c'est les sujets villes, la photo Zidane, les mecs des cités. Donc j'essaye de traiter les sujets les plus bas, et c'est pour ça que j'ai un mal fou à trouver un lectorat, parce que tout le monde veut des histoires d'amour et des histoires middle class, et j'ai rien en magasin pour eux, je suis désolé. Mais il y a ce moment aussi où tout s'en mêle, il y a le roman de Wakami, dont l'histoire est extrêmement émouvante, il y a l'histoire de Zidane, et l'histoire des mecs des cités. Et en fait, d'un seul coup, à partir du moment où je parle de la France, je suis obligé de parler des troncs centenaires qui font la France, c'est-à-dire Saint-Denis, la basilique, la langue française, les armes de France, les armoiries, toutes ces choses qui ont une importance capitale pour nous, même mômes des cités, parce qu'il y a toute une scène où on va à la basilique Saint-Denis. Et le gros sujet de tous mes livres, que je traite de façon géographique dans chacun des livres, mais qui à la fin fera somme, et c'est là où il y a peut-être une idée de roman total, mais au moins de géographie totale, c'est Paris. Là, le grand travail sur Paris, c'est celui sur la gare du Nord, qui est traité comme une Babel inversée, c'est-à-dire que la gare du Nord est le lieu d'un effondrement du langage. Et ça, c'est très important. Dans tous les livres, je travaille sur Paris. Et puis, bon, ma question principale, c'est la France, c'est l'effondrement politique de la France. Et ce fait que, je pense qu'à un moment, voilà, ça fait un millénaire que la noblesse la grandeur française a été tenue par la noblesse pendant presque un millénaire. La bourgeoisie, depuis deux siècles, veut imposer autre chose que la grandeur. Donc pour l'instant, ça réussit énormément. Je pense qu'il y a un moment, je ne cherche pas un renversement politique gauche-droite, je cherche un renversement par l'idée de grandeur. Ce qui empêche la France de respirer, ce n'est pas une erreur de choix politique entre les bassesses du PS et celles de l'UMP, c'est bien plutôt l'incapacité des deux bords à percevoir ce qui est grand dans un pays. Et pendant des siècles, la langue française a fait partie des attributs sacrés de la France, avec la nécropole de Saint-Denis, les reliques de la Sainte-Chapelle, le lys, toutes ces choses-là. Donc toutes ces choses anciennes, je ne vais pas vous demander de restituer la Sainte-Ampoule du Sacre de Reims, mais la dernière chose qui reste de la grandeur française, c'est sa langue. Donc au moins, je pense qu'on peut garder une capsule de sacré et de vivacité en redonnant une équation par le haut et par le bas de cette langue. Et le problème, c'est que pour que cette grandeur vive, on est obligé de se battre violemment contre l'occupant. Et la langue française que Guyotat a en ligne de mire, c'est plus celle des colons d'Algérie, c'est plus celle du discours colonial de Frantz Fanon, c'est celle de la petite grande bourgeoisie qui tient les médias et la télévision et qui impose un langage universel, qui essaie de gommer tout ce qui, dans le français, peut constituer un message puissant. Il y a un esprit de soumission énorme dans la France d'aujourd'hui, chez les écrivains, chez les penseurs. Il y a un sens inné de l'esclavage. Moi, je suis quelqu'un de très rebelle. Je ne dis pas ça comme tous les tarés de chanteurs punk qui vont vous dire qu'ils sont rebelles, même si j'adore les Ramones et Sid Vicious. Mais bon, le truc, c'est qu'il y a un esclavagisme dont il faut sortir, qui est un esclavagisme consenti. Et parler la langue des journaux, parler la langue des télés, et parler la langue de la narration franglaise, comme font quasiment tous les écrivains, ça, c'est déjà, éviter de faire ça, c'est le premier signe d'une révolte politique. Et donc moi, je pense que Chant furieux, c'est un manifeste poétique, drôlatique sur les cités, sur une noblesse de briques et de broc dont Zidane serait le héros. Mais c'est aussi un chant d'amour pour un retour du swing français, un swing ancien. Et là, je prépare un bouquin sur ça, sur cette résurgence d'un funk. Je cherche l'équation interne du français, un son ancien qui soit l'équivalent d'un funk noir. J'y arriverai peut-être.
Merci beaucoup, Philippe.
Merci.
Barrette.